Donc on va poursuivre avec le dernier, on en a perdu quelques-uns en route, mais donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à ce soir. On va terminer avec notre table ronde sur le thème du Minitel Rose au porno 2.0, technologie, sexualité et modèle économique. C'est une table ronde qu'on avait voulu monter absolument pour aborder des logiques et des problématiques qu'on a déjà un petit peu abordées, strictement économiques, et aussi sur l'histoire des technologies qui se sont succédées autour des deux thèmes qui nous intéressent pour le colloque. Je pense qu'on va aussi peut-être parler un peu plus de pornographie que de prostitution par rapport aux dernières tables qui ont eu lieu. Donc je vais laisser la parole à Marie Trespeuch, sociologue au Orange Labs, qui va vous présenter les intervenants et animer le débat.
Alors bonjour à tous, enfin bonsoir. Donc cette session vise à discuter des liens que l'on peut faire entre donc, les technologies, les transactions sexuelles, mais là en l'occurrence on parlera davantage de la pornographie, et des modèles économiques. Donc quand on essaie de penser un peu à ce triptyque, enfin, c'est l'exercice que je me suis imposé quand on m'a proposé la modération, je me suis dit bon, si on revient 30-35 ans en arrière, on a le Minitel. Alors c'est vrai que le Minitel rose a fait les heures joyeuses et lucratives du Minitel. Ensuite, il y a eu la télévision, bien sûr, avec l'accès via Canal+, pour les abonnés aux célèbres films du samedi soir, à partir de 1985. Et puis, évidemment, la VOD, ensuite, après, la vidéo à la demande. Et puis, surtout, l'arrivée d'Internet, révolution majeure, avec notamment ce qu'on appelle le Web 2.0, quand tout un chacun a pu désormais poster des contenus pornographiques comme il l'entendait. Donc cette histoire en trois temps, elle va être observée ici avec nos deux intervenants, au moins pour deux de ces temps-là, les deux à l'extrême, c'est-à-dire d'abord Claude Balz pour le Minitel et puis Stéphane Desaulnois pour le web, on va dire. Donc Claude Balz est professeur émérite de l'Université de Paris 8, du département hypermédia et le département des sciences de l'information et de la documentation. Alors, vous m'avez dit que vous étiez philosophe dans les domaines, dans des domaines assez variés, puisque ça va de l'épistémologie de l'information et de la communication aux effets sociaux d'éthique, en passant par la culture informationnelle et surtout la cyberculture. Et vous, Stéphane Desaulnois, vous êtes plutôt côté web. Alors, vous dirigez, vous êtes le rédacteur en chef d'un site qui est dédié à la culture pornographique, si j'ai bien compris, et vous préciserez ensuite de quoi il s'agit. Et donc vous êtes moins dans le rôle du chercheur que dans celui de l'entrepreneur, de celui qui est dans ce monde économique.
Un consommateur averti. Oui.
Et aussi consommateur averti. Donc deux points de vue ce soir pour regarder ce triptyque entre économie, sexualité et nouvelles technologies. Et pour commencer, alors on va pratiquer un peu différemment de tout à l'heure, d'où la configuration un peu différente aussi. Je vais passer la parole à Claude Balz. Ensuite, peut-être qu'on aura un échange, des précisions peut-être qu'on pourra vous demander ici à la table. La même chose pour Stéphane. Et puis ensuite, on aura une discussion un peu plus transversale sur ces modèles économiques et puis évidemment une discussion avec toute la salle. Donc Claude Balz, je vous laisse la parole.
Merci, vous m'entendez. C'est bon là ? Vous m'entendez ? Bon. Bon, alors mythique Gretel. L'essentiel de ce que je vous dirai sur diapo, c'est en gros consacré à l'histoire de Gretel. Alors Gretel, une expérience de télématique interactive. Télématique, c'est un mot qui est déjà quasiment oublié. C'était une transformation de télévision, de télécommunication et puis informatique. Donc il faut savoir qu'en 80 à Vélizy, une banlieue de la région parisienne, France Télécom avait lancé une première expérience de Minitel. Et il se trouve qu'à Strasbourg, un an après, par un hasard pas tout à fait fortuit, si vous me permettez, les dernières nouvelles d'Alsace, la DRT et l'association d'habitants ont décidé de faire une expérience spécifique qu'on a appelée Gretel. Alors Gretel, ça veut simplement dire regroupement régional de télématique, mais le clin d'œil est évident pour, je ne sais pas s'il y a des Alsaciens dans la salle, non, enfin bon. Hansel et Gretel, une légende germano-alsacienne, Et quand on ouvrait à l'époque le terminal Minitel, on avait la petite coiffe alsacienne, et je me suis permis de mettre, peut-être c'était le début de l'art numérique, hein, pour les connaisseurs, quoi. Alors, là, je rends hommage quand même à quelqu'un qu'on peut considérer comme l'inventeur de la messagerie. Enfin, en tout cas, c'est lui qui a couvert l'histoire de la messagerie. Alors, on ne peut pas trop s'attarder là-dessus. C'était le directeur de l'informatique aux dernières Nouvelles d'Alsace. Et je pense qu'on pourrait lui faire une statue, parce que, vu les développements ultérieurs, il le mériterait bien, quoi. Si quelqu'un veut lancer une souscription, ben, je peux essayer de lui venir en aide, quoi. Bon. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu Minitel, voilà à quoi ça ressemblait à peu près. Hein. Et voilà à quoi ça ressemblait quand on était connecté sur le système que je vais vous décrire tout de suite. Là. Et dans les bons cas, on pouvait directement passer au téléphone par la suite, après avoir fait un certain nombre de choses. Alors, voilà de quoi il s'agissait. Cette expérience, c'était vraiment une expérience. Il fallait lancer à l'époque pour les télécoms, il fallait lancer un nouveau plan, un nouveau quelque chose qui relance la croissance économique. Enfin, les marchés téléphoniques étaient arrivés à saturation. Et on a amorcé en distribuant des terminaux Minitel qui étaient extrêmement rudimentaires, qui étaient en fait des modems, qui n'avaient pas de microprocesseur dedans. Donc 510 terminaux distribués gratuitement. Puis au début surtout, pas de limitation de temps. La nuit, c'était quasiment gratuit. Alors ce qui a donné lieu, on verra, des choses extraordinaires. Et très très vite, un an après, 2500 usagers et la moitié complètement accro. Alors, théoriquement, Gretel, c'était un truc sérieux, quoi. C'est-à-dire que sur le modèle de Vélizy, on avait accès à des bases de données sur la météo, la bourse, l'état du trafic SNCF, etc., etc. Bon. Et il y avait quand même, et c'est là qu'il y a un petit mystère quand même, il y avait un système qui permettait, lorsque le directeur, l'ange Landaré, que vous avez vu tout à l'heure, il se rendait compte qu'il y avait un truc qui ne marchait pas très bien avec un usager, la possibilité de lui renvoyer, avec un mot de passe, de lui renvoyer un message d'erreur, quelque chose comme ça, quoi. Bon. Et puis, en 82, parce que naturellement, on ne disait pas des geeks à l'époque, enfin, on disait des bidouilleurs, il y avait des tas de gens qui se sont dit que, quand même, ce machin, il est un peu trop simple, il y a moyen de rentrer dedans. Et puis, paraît-il, alors là, j'ai trouvé ça dans un bouquin d'Aurélien Bélanger, paraît-il, c'est un gamin de 11 ans qui a réussi à craquer, à trouver le mot de passe. Et puis, qui invente voilà, la messagerie Gretel. On appelait ça MSG Gretel. Voilà. Alors, énorme succès, parce que... Alors, petite parenthèse, vous voyez, les voies de l'innovation technologique, j'insiste pas là-dessus, mais ceux qui ont un petit peu de recul, on a toujours une question grave quand on réfléchit à l'histoire des technologies. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a un truc qui sort, quoi. Bon, et là, il n'y a pas de doute, il y a un truc qui est sorti par hasard, que personne n'avait prévu, et qui fait, je crois, la des attraits de cette histoire, qui est maintenant un peu lointaine, quoi. Alors, cet énorme succès, ça permettait, en fait, énorme succès. Pourquoi ? Parce que le groupe de bidouilleurs a réussi à créer une espèce de système de communication en réseau, alors qu'avant, tout passait par le lieu central dépendant des dernières nouvelles d'Alsace. Donc, communication en réseau, rien à voir, évidemment, avec les réseaux actuels, mais c'était le début du début, et c'était l'ivresse des débuts. Donc, très vite, il y a des tas de gens qui se sont rendus compte que, eh bien, ils pouvaient communiquer autrement qu'en passant par le chef. Et, je reviendrai tout à l'heure dessus, attendez, bon, je vais revenir. Bon, enfin, très vite... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les usages sérieux sont devenus très très minoritaires et 80% des usages se sont faits sur justement ces échanges entre individus de tous bords. Bon. Alors vous voyez beaucoup d'hommes, beaucoup de célibataires, majorité jeunes, donc tout est réglé, quoi. Alors une page de publicité, alors j'étais assez content de découvrir ça. Hein, la connexion au réseau équivalait à une plongée dans un univers ouvert. Hein, aucun type de message de rencontre est exclu, le grand frisson sans risque à domicile, du moins physique. Voilà. Bon, c'était comme ça qu'on le voyait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, les usages ont explosé. Beaucoup d'usages, alors il y a des statistiques qui ont été faites, beaucoup d'usages la nuit, Bon, pas forcément jusqu'à 3 heures du mat, mais en tout cas, il y avait un pic certain entre 9 heures et minuit. Alors après, il y avait les accros qui restaient. Des notes de téléphone épouvantables. On parle même de, à l'époque, 300 € de notes de téléphone. C'était quand même beaucoup, hein, à l'époque où le SMIC n'était pas du tout à ce niveau. Saturation des lignes, des délais d'attente parfois. Et malgré tout, ça communiquait. Bon. Alors, il y avait deux images qui sortaient, qui seront en rapport avec ce qui va suivre, évidemment. Vous aviez la drogue, comme on devient accro, quoi. On ne peut plus s'en passer. Et puis, évidemment, pour faire la rime, ou presque, le messagerie MSG Gretel, bon, c'est un lieu de drague à tout va, quoi. Bon, voilà. Donc, drogue et drague, les deux ensemble, quoi. Alors, le phénomène était tellement étonnant et tellement nouveau qu'il y a eu de très grands articles, des études, des missions FR3, etc., etc. Et puis, petit à petit, les tarifs ont augmenté et c'est tombé. Alors, je vous mets quelques pseudos
c'est
quand même.
Quand, pardon,
ça fait arrêter en 88, attendez, 80. Non, fin Minitel 2012 et fin Gretel 2012-2008.
Ah oui,
bon, c'est quand même. Alors, justement, il y a toute une discussion qu'on ne peut pas avoir sur le fait que le Minitel, il a quand même duré un certain temps avant de se faire manger par Internet, hein, pour des raisons qui sont assez évidentes mais que je ne peux pas développer ici. Alors, pour rester dans le fil quand même du débat qui va s'annoncer, vous avez quelques pseudos. Hein. Bon, je vous laisse lire quand même. Vous préfériez une voix qui vous susurre, les pseudos peut-être.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de topic. Non, parce que si j'ai bien compris, c'était seulement par le pseudo qu'on découvrait ce pourquoi était venue la personne sur la messagerie.
Alors justement, dans l'ADN de Gretel, ce qui était extraordinaire, c'est qu'en même temps, alors vous voyez, invention du pseudo, anonymat, je reviens. Ce qui était extraordinaire, je ne vais pas encore insister là-dessus, c'était qu'en même temps que se découvrait ce système, on ne sait pas par hasard, hein, on ne sait pas comment. On soupçonne même que ce soit le patron des Daniel Wall d'Alsace qui a voulu faire la nique à la DGT, enfin à la direction des télécommunications, pour inventer une fonctionnalité qui n'était pas prévue, quoi. Bon, mais il y a un mystère. Deuxième truc qui a été inventé, c'est les pseudos. Alors là, je n'ai rien vu, je n'ai rien trouvé sur l'histoire des pseudos. En tout cas, c'était génial parce que le seul moyen qu'on avait d'être en contact avec quelqu'un, c'était via une liste de pseudos. Alors en plus, il fallait dérouler, aller du début à la fin, ce n'était pas très très commode, quoi. Il fallait être accro. Mais c'était le seul moyen, quoi. Et c'est là qui est extraordinaire, c'est là qu'on a vraiment le début du début, on a vraiment le moyen de communiquer avec quelqu'un dont on ne connaît rien, sauf le nom qu'il a bien voulu vous inventer, quoi. Alors, il y avait de tout, et alors pour rester, comme je vous disais, dans le fil ici, là, vous avez des... Bon, vous voulez, je vous commente, allez, cherche Super Nana, mais là, j'ai le son, vous avez sûrement le texte, hein, un Fort 69, tapin de Noël, puisqu'on est dans... C'est approche, quoi, vous voyez, bon...
Bon.
Alors justement, j'ai compté, alors j'avais fait une étude de corpus de pseudo comme ça, et j'étais un peu étonné de voir que malgré tout, malgré les images de drague et tout, ça, les pseudos n'étaient pas énormes, quoi. Alors par contre, il était très difficile, je vais le mettre après, il était très très difficile de rentrer dans le détail des contenus. On a été réduit à une image. Alors, le seul moyen que j'avais, c'était de me connecter moi aussi, quoi, de discuter avec des gens. Et il n'y avait pas la surveillance orwellienne qu'il peut y avoir maintenant sur les réseaux sociaux pour savoir qui dit quoi. Hein, Snowden n'était pas encore né ou à peine, quoi. Hein, donc, c'était difficile de savoir. Donc, voilà, on peut dire que derrière cette image de Gretel, vous avez... Je m'arrêterai là-dessus pour le moment pour laisser la suite... ou à l'autre intervenant. Donc, vous avez bien compris que, pour conclure sur ce premier point, quand je dis mythique Gretel, enfin, je pense que tout le monde aura compris le clin d'œil, hein. Il y a une part de mythique dans cette affaire, mais de mythique en même temps oublié, quoi. Qui se souvient de Gretel à l'heure actuelle, quoi, hein. Bon, je suis heureux de faire remonter un peu l'affaire et de souffler un peu sur, comme on dirait, sur les braises de l'histoire, hein. Bon. En tout cas, mythique, voilà ce qu'il en est actuellement. Et... ce qui est intéressant maintenant, je crois, c'est d'analyser à partir d'une expérience bien plus proche la suite de ce fleuve et de voir maintenant tout ce qu'on pourra tirer comme fil de réflexion, bon, le plus large possible, quoi. Voilà, j'ai tenu mon contrat de 10 minutes, là.
Oui, c'est bon. À peu près. Okay. Si. Avant de vous passer la parole, Stéphane, en fait, la question qu'on peut se poser, parce que là, c'est vraiment une messagerie... voilà, on dirait une sorte d'ancêtre à la fois du chat, du forum qu'on peut trouver sur Internet. Mais le côté modèle économique m'interroge parce qu'on pense vraiment au Minitel Rose et donc au 3615 Oula, 3615, je ne sais plus, Aline, enfin beaucoup de 3615 hein, quand même. On a quand même connu ça. Et là, le modèle, c'est quoi? C'est juste de la communication téléphonique, c'est même pas surtaxé, c'est juste du temps de communication.
Bon, alors là, j'anticipe un peu sur le... Là, et puis ne regardez pas, puis écoutez la réponse, quoi, voilà. Alors, comment ça marchait au point de vue économique? Alors, au début, il y avait gratuité. Hein, gratuité pour amorcer la pompe. Bon. Alors, ensuite, France Télécom a inventé un système qui a fait d'ailleurs la fortune du Minitel, c'est le système de kiosque qu'on appelait. C'est-à-dire...
Ouais, voilà ça.
Et ce qui est curieux, c'est que, alors, là aussi, dans l'histoire des technologies, c'est intéressant, c'est né à partir de l'horloge parlante. Parce que les télécoms s'étaient rendu compte que parfois, il y avait des bugs dans l'horloge parlante et des gens qui appelaient l'horloge parlante, tout d'un coup étaient en communication avec quelqu'un d'inconnu et pouvaient parler assez longtemps, quoi. Donc, les ingénieurs des télécoms s'en sont rendu compte, ils ont perfectionné le système et ils ont mis au point ce qu'on appelle le kiosque, c'est-à-dire la possibilité de surtaxer, justement, des communications qui s'adressaient ben, en particulier aux 3615 de toutes sortes, quoi. Donc il y a eu en place assez rapidement quand même, on peut dire que la réactivité était forte, hein, il y a eu en place un système qui permettait à tout le monde de s'y retrouver, à France Télécom pour commencer, et puis tous les différents prestataires de services, parce que bon, j'anticipe sur la suite, 3615 c'était pas né tout de suite, Gretel c'était pas 3615, on tapait MSG Gretel, quoi, hein, mais après ça s'est perfectionné et sont venus tous les numéros, 3615, 3617, certains sérieux, d'autres moins, etc., etc., sont venus les Oula, les... bon, tout. Là, d'ailleurs, il y a un bouquin auquel je fais référence, qui est paru il n'y a pas très longtemps, d'un certain Aurélien Bélanger, qui s'appelle « La théorie de l'information », et qui raconte un peu l'histoire du Minitel. Je trouve ça remarquable, c'est tout récent, à la fois d'un point de vue, je dirais, économique, d'un point de vue... c'est l'histoire d'un petit capitaine d'industrie qui est devenu grand, avec des histoires borderline, tout à fait. Donc, on peut dire que Gretel a servi, encore une fois, de terrain d'expérimentation pour inventer un système de rétribution économique des acteurs, hein, en amorçant la pompe du point de vue des usagers.
Et sur le contenu, parce que là, on parle de pseudo assez évocateur, un peu tendancieux, mais est-ce qu'on peut parler vraiment de pornographie avec Gretel ? À l'époque, est-ce que, alors, de pornographie, de messages pornographiques d'une part, et sur le volet plutôt échange économico-sexuel, est-ce que les gens, après, se rencontraient, éventuellement monnayaient des transactions sexuelles, ou alors c'était, bon voilà, juste sur, on s'amuse un petit peu sur le Minitel, et puis c'est terminé.
Alors, du temps de Gretel, je ne parle pas de la suite du côté du temps où il y avait vraiment des 3615 qui étaient vraiment à vocation sexuelle ou à vocation de rencontre. Au début, donc, le seul indice qu'on avait, si la personne qui cherchait une communication, le seul indice qu'on avait, c'était le pseudo. Il n'y a pas de doute que Petit âme esselé ou alors veut discuter de Platon, par exemple, il n'y a pas de doute qu'a priori, ce n'était pas très sexuel, quoi. Bon, hein. Donc, ça commençait comme ça. Pour la suite, c'était, je vous le répète, beaucoup plus difficile. Il y avait le « quand dira-t-on ?» Il y avait cette image sulfureuse de dialogue qui pouvait être pornographique. Mais il y avait très, très peu de moyens de vérifier l'état exact. Et alors, l'autre affaire, qui est l'affaire de la rencontre, ça, c'est une autre histoire aussi. J'ai vu des chiffres très, très variables. Il y a des gens qui disaient que, des études qui disaient que 80% des demandes de rencontre avaient lieu. Parfois, j'ai entendu plutôt 25-30%. Sans oublier que, là c'est un point aussi qui va faire discussion, c'est que les rencontres de l'époque, ou les demandes de rencontres, n'étaient pas uniquement des demandes de drague. Il y avait quand même, et là on trouve aussi l'ancêtre des réseaux sociaux, il y avait aussi une demande de convivialité, de rencontre de gens qui étaient plus ou moins paumés parce qu'ils arrivaient en ville, parce qu'ils habitaient un nouveau quartier, etc. Enfin, tous les problèmes actuels d'urbanisme, des gens qui cherchaient vraiment... hein, par exemple, j'étais étonné la première fois, j'entends quelqu'un qui dit « Le matin, quand je vais au boulot, clac, je tape un petit peu. Bonjour, bonjour dégâts des eaux, parce que l'autre bossait aux eaux de Strasbourg. Quoi. Bonjour dégâts des eaux, ça va bien, bonne journée, salut. » quoi. Donc c'était étonnant de découvrir qu'il y avait vraiment une recherche de convivialité qui n'avait rien à voir avec la drague. Et les deux étaient évidemment intimement mêlés, c'est le cas de le dire.
Donc c'est vraiment avec le 3615 et tout le système des kiosques que là on a commencé à tarifer des services spécifiquement dédiés à de la rencontre à des fins sexuelles. Et je dis ça parce que j'essaie de faire une transition. Alors là on est très 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 loin des tubes, mais en gros ce que j'ai, enfin moi c'est vraiment mon raisonnement, c'est donc il y a eu ce système de tarification du Minitel. Après donc je reviens sur la télévision, Canal+, l'abonnement, donc là ce qu'on s'était dit, hein, donc la pornographie rentre dans le foyer. Véritablement. Et puis ensuite, on arrive à Internet.
Donc la pornographie rentrait déjà, oui, dans le foyer avec l'arrivée dans les années 80 de la VHS.
Avec la VHS, exactement.
Fait sortir le cinéma, enfin le porno du cinéma et la VHS,
voilà,
avec
cinéma,
une consommation
la VHS.
Qui est de plus en plus masturbatoire finalement.
Voilà, et le flux qui arrive télévisuel et ensuite Internet. Avec et là, on arrive sur d'autres modèles et je vous passe la parole. Oui.
Encore un petit point, effectivement, d'ailleurs, ces figures-là. Ah non. Il y avait quand même des bruits comme quoi. MSG Gretel servait déjà un peu comme moyen de drague, de rencontre avec des prostituées de toutes sortes. Quoi. Il y avait comme des bruits, mais évidemment invérifiables. Hein, mais n'empêche qu'il n'y a pas tué mais sans feu, comme on dit. Donc je crois que maintenant, la suite est toute trouvée. Quoi.
Donc en parallèle du Minitel, il y a l'arrivée d'Internet dans les années 90, fin 90, où on a une pornographie qui est simple, qui est déjà d'une certaine manière gratuite. Surtout sur de l'image et sur du texte. Je vais essayer de la faire très vite pour arriver vers les tubes. Donc ça, c'est une première évolution, c'est l'accessibilité du porno tout à chacun qui a accès à Internet à travers un modem. Un peu lent, du coup, on est quand même sur de l'image et surtout du texte. Début 2000, on a une première évolution qui est extrêmement importante quand même pour la pornographie sur le net, c'est l'arrivée de la DSL. Donc le haut débit qui permet quand même de regarder des vidéos et pas se contenter d'une vidéo de à l'époque 500 kilooctets qui fait toute petite et toute pixelisée. Ça suffisait hein, pour se masturber, mais...
Comme Canal+, sans le décodeur au début. Hein.
Voilà, c'est ça, sans la passoire. Et donc oui, bon, moi j'utilisais ça comme ça. Je fais Internet assez tôt, donc c'était bien pratique. Je me contentais de chargements d'images très lentes. Mais déjà, bon, il y avait déjà une économie de l'Internet pour la pornographie, avec des sites payants, surtout sur de l'image, sur des galeries photos, mais les galeries photos étant disponibles en gratuit, déjà avec un modèle quasiment freemium, en tout cas d'APA, on pouvait déjà quand même consommer de manière gratuite.
On payait comment? Parce que ça n'existait pas le paiement en ligne à l'époque. Il fallait envoyer des...
Le paiement en ligne dans les fin 90 début 2000.
Non, je croyais que vous parliez de 1995.
Ah, j'étais trop petit. Là. Je pense que peu de gens avaient Internet. À
oui, non, parce qu'au début vous parliez du milieu des années 90. Ok, donc là on est fin des années 90, début des années 2000.
Fin 90, voilà, quand l'économie est là et commence à s'implanter. L'arrivée de la DSL fait que il y a la vidéo. On peut commencer vraiment à sortir du concept de VHS puis de DVD pour aller vraiment sur de la VOD, sur des scènes. Le porno, lui, en mute à ce moment-là. Le gonzo, ce qu'on appelle du gonzo, c'est du porno sans scénario qui est apparu fin 80, début 90 par un brave homme qui s'appelle John Stagliano. Commence vraiment à exploser à ce moment-là parce qu'on consomme moins du porno par film, mais vraiment par scène. Aussi pour des raisons techniques, parce qu'une scène est moins grande qu'un film. Mais la grande révolution, donc dans les années 2000, début 2000 jusqu'à on va dire 2006, le porno a explosé sur Internet avec des gros networks qu'on appelle des réseaux de sites comme les plus connus, Bang Bro ou Brothers, où là vraiment ça allait très très bien pour eux. Tout le monde avait accès gratuitement d'une certaine manière, mais c'était très frustrant. On était un peu obligé quand même à un moment d'être forcé à payer pour avoir un peu plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2005 arrive YouTube. YouTube est un hébergeur de vidéos. Et en 2006, donc juste un an après, il y a le premier tube porno qui sort. Et qu'est-ce qui différencie un tube porno d'un tube non porno? Rien, si ce n'est le caractère explicite en fait, du contenu. Les deux sont basés sur le même droit, c'est la DMCA, Digital Millennium Copyright Act, qui gère le droit d'auteur aux États-Unis. Et en fait, un site comme YouTube est un hébergeur et pas un éditeur. Donc la responsabilité, elle vient de la personne qui upload le contenu. Donc les tubes porno s'appuient sur ça pour proposer du contenu vidéo volé, puisque ces sites-là existaient étaient déjà très remplis avant même qu'ils existent. Donc c'est pas ça, c'est un peu une mythologie de croire que ce sont les utilisateurs qui uploadent les vidéos. C'est le cas, mais dans le cadre des tubes porno, c'est les tubes eux-mêmes qui uploadaient les vidéos. Ce qui est complètement illégal, mais ils se cachaient. Voilà, il faut quand même savoir ça. Et donc ça, on arrive, on est en juillet 2006. Donc le premier tube s'appelle PornoTube. On l'a oublié, mais c'était le premier. Un mois après sort YouPorn, que tout le monde connaît, puisque c'est devenu une marque, et c'est devenu une marque générique pour dire porno, même en tout cas en France. Et là, c'est une explosion. Pour les consommateurs comme moi, on n'a plus besoin de passer par des voies détournées si on n'a pas envie de payer. Et on a accès à une quantité absolument astronomique de vidéos infinies, classées par tag, d'où le nom du site que j'ai monté qui s'appelle le Tag Parfait, qui en fait à la recherche de la vidéo parfaite à travers des tags, je veux dire un mot-clé. Donc on est là, on est en 2006, et tout comme YouTube, en fait, tout comme YouTube a eu le droit à des procès à gauche, à droite, des très gros procès de l'industrie, les tubes porno ont aussi le droit au procès, mais se cachent derrière la DMCA et sont dans leur droit, en fait. Donc les gens arrivent peuvent consommer de manière gratuite, pas en HD, mais quand même plutôt de bonne qualité, de la vidéo, mais à l'infini, de manière très simple. Il n'y a même pas de disclaimer à l'entrée de ces sites. On ne demande pas si vous êtes majeur ou pas. C'est direct, c'est très frontal. On est à une accessibilité, une hyper accessibilité en fait, du contenu. Et donc, évidemment, quand on propose à des consommateurs de regarder la même chose, mais de manière gratuite, ils vont vers le gratuit. C'est même un peu insensé de penser qu'ils iraient payer. Et donc voilà. Et donc les tubes grossissent et se prennent des procès, mais arrivent à contourner. Il y en a certains qui tombent, mais quasiment pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les tubes, en s'appuyant sur le contenu des studios, ont complètement bouleversé en fait l'économie du porno sur Internet. C'est-à-dire que là, de 2006 à 2014, l'industrie qui était grosso modo de 8-10 milliards par an est à 3-4 milliards à l'heure actuelle.
3-4 milliards de
dollars.
De dollars
dans le monde entier.
Dans le monde entier annuel.
Il faut ramener quand même à ce qu'on dit souvent, le porno a extrêmement de puissance sur Internet. Ce n'est pas forcément vrai parce que le e-commerce représente 1300 milliards à l'heure actuelle dans le monde, ouais. Et la pornographie en ligne, 3-4 milliards. Et on peut aussi comparer à l'industrie du sextoy, même si ce n'est pas que du e-commerce, qui pèse 22 milliards à l'heure actuelle. Donc le porno n'est pas si puissant que ça.
D'accord.
Mais le porno est souvent dans une zone grise, donc on lui donne plein de...
Oui, on surévalue, voilà. Éventuellement pour
et
faire... Voir,
et aussi dans une autre assez mafieuse, assez floue.
Ouais. Et justement, les acteurs aujourd'hui de cette économie-là sur Internet, les acteurs puissants... Donc,
les acteurs puissants, à l'heure actuelle, c'est les tubes. Ce sont les tubes.
Uniquement.
Pas uniquement, mais disons qu'ils ont complètement renversé la...
Et c'est qui les tubes, en fait, parce que...
Les tubes, c'est à la base des gens qui peuvent être des webmasters... Des personnes derrière leur ordinateur qui montent des tubes. C'est assez simple en fait à faire. Vu que le droit est de leur côté, tout le monde peut le faire. Et après, retrouver des autres vidéos, c'est tout un business parallèle de webmaster. C'est pas très compliqué en fait. Mais après, il y a des tubes qui sont devenus beaucoup plus gros, comme YouPorn, comme Pornhub et compagnie, qui eux, derrière, ont une grosse structure qui peut permettre de payer une bande passante quand même colossale. Puisqu'à l'heure actuelle, le porno en ligne, c'est 30% de la bande passante d'Internet, à peu près, entre 15 et 30%.
Ah oui.
Et il faut savoir aussi que 90% de la consommation de la pornographie se concentre en fait maintenant sur les tubes.
Donc quand vous dites les tubes, qu'on soit bien d'accord, donc c'est des plateformes.
C'est des sites d'hébergement de vidéos porno.
D'accord. Et le modèle économique de ces plateformes, c'est la publicité ?
C'est la publicité, mais sous plusieurs formes en fait. C'est la publicité à l'impression, comme on peut avoir sur le site du Monde ou qui est le business model de la très grande majorité des sites dans le monde. Mais ça, on est déjà dans une économie qui est beaucoup plus basse que ce qu'on appelle le mainstream. Quand je veux dire mainstream, c'est tout ce qui n'est pas porno, en fait. Et donc, dans le mainstream, les tarifs sont beaucoup plus hauts que dans le porno. Du coup, on est dans déjà une petite économie. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que... Et c'est là que ça devient vicieux et intéressant en même temps. C'est que les tubes ont besoin, en fait, des studios pour vivre. Parce qu'ils ont besoin du contenu. Et les studios, leur taf aussi, c'est de faire sauter les vidéos qui se retrouvent sur ces tubes, parce que ça leur coupe complètement leur business. Le coup de génie, entre guillemets, c'est quelqu'un qui bossait chez YouPorn au tout début, qui en fait allait voir les studios et leur a dit « Voilà, nous on a du trafic, si on a du trafic, on a donc du business derrière, on a de l'argent pour vous. Nous voyez pas comme un ennemi, mais voyez-nous en fait comme une plateforme de promotion. Voyez-nous comme un webmaster. Vous êtes le sponsor, vous fournissez le contenu, nous, on se démerde pour le mettre en avant. Donc c'est ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé en fait un peu en parallèle. Il y a des acteurs du milieu qui n'ont pas du tout accepté ça, parce qu'on est quand même face à une sorte de racket. On dit voilà, nous on a comme du racket, si tu veux qu'on te protège, suis-nous. Ça peut réparer. Si tu veux pas que ton contenu se retrouve de manière illégale sur les tubes et qu'on l'enlève de manière assez laid back, ils sont pas très réactifs. Travaillez avec nous parce que nous on a le pouvoir, on a la puissance. Donc voilà, ils n'ont pas trop le choix. Et après, on est face à plusieurs types de réactions. Il y a les studios qui refusent complètement et qui, à l'heure actuelle, s'écroulent, sont en train de mourir. Il y a ceux qui ont les petits studios qui sont montés, qui a besoin de cette audience finalement et qui ont réussi à tirer profit de ça, et un peu les intermédiaires qui ont compris en fait comment ça se passait et qui jouent avec et qui essayent de survivre tant bien que mal, mais certains arrivent à sortir l'épingle du jeu. Et là, on est en 2014, les tubes sont de plus en plus, on va dire, sont quand même dans une partie de la légalité. Il y a énormément de contenu qui est légal, qui sont en fait des scènes de promotion en fait pour amener vers du payant. Mais le problème, c'est que les utilisateurs, ils veulent pas ça. Les utilisateurs, ils veulent pas payer.
Alors, si j'ai bien compris, là, au début, il y avait des studios en nombre relativement limité, forcément il faut des moyens. Ils avaient évidemment leur propre système de diffusion, mais ils se sont trouvés débordés, si j'ai bien compris, par la quantité évidemment croissante, astronomique, de webmasters qui peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et pratiquement, non mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que les diffuseurs, d'une certaine façon, ils ont gagné une fois de plus par rapport aux producteurs.
C'est bien, oui, ça. C'est bien ça.
Ouais. Non, c'est très important, parce que en matière de rapports, les nouveaux rapports économiques qu'induit l'époque Internet, c'est de ça dont on discute aussi, hein, bon, c'est que la diffusion prend le pas, la circulation de la valeur en particulier, prend le pas sur la production des biens, quoi. Ça, je crois que c'est un phénomène qu'on retrouve maintenant ici. Quoi.
Et du coup, il y a moins en moins de studios. Et le problème aussi, c'est que moins il y a de studios, moins il y a de contenu. Donc le contenu qu'on retrouve sur ces sites-là, le contenu qui n'a pas sauté, qui n'a pas été signalé, est le même depuis quasiment 2006. Donc le public peut aussi vite se lasser et passer à autre chose. Mais pour l'instant, le public n'a pas d'intérêt finalement à aller s'abonner à un site qui coûte à peu près $30 par mois, où il y a le contenu d'un seul site. Il préfère largement consommer de manière gratuite parce qu'il a accès à tout, à toutes les pornographies, à toutes les sexualités. C'est ça que le public veut voir en fait. Et pour l'instant, l'industrie n'a pas réussi à trouver une réponse intéressante qui, pour moi, se retrouve dans ce qu'on pourrait appeler l'équivalent des Netflix, mais pour le porno, qui mettent un temps fou à arriver alors que ça devrait être là depuis des années, l'équivalent de Spotify pour le porno. Enfin, moi, en tant que consommateur, ça fait des années que j'attends ça et je suis prêt à payer.
Expliquez peut-être. Ce que vous entendez par un Spotify du porno,
Un Spotify, oui. C'est un abonnement Spotify, ou Spotify ou un Netflix, c'est un abonnement illimité à un catalogue, un très gros catalogue. On ne paie pas, c'est pas de la VOD, c'est de la SVOD.
Oui, donc là, il y a une dimension qualité en fait qui devient très importante. C'est-à-dire que si les studios n'ont plus les moyens parce qu'ils ne vendent plus de DVD, parce que aujourd'hui le modèle économique d'un studio,
c'est la VOD. Le DVD, c'est vraiment
le DVD est mort, ouais,
quasiment, ouais.
Vraiment. Et donc faut qu'ils trouvent des moyens pour pouvoir produire, si j'ai bien compris. Donc ce que vous dites, c'est que certains et beaucoup sont morts, mais vous dites quand même que la qualité et le nombre de contenus suffit à satisfaire les utilisateurs, mais jusqu'à quand en fait ?
Jusqu'à quand ? Mais là, on est à mon avis à une période un peu charnière.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, quelques grands studios attendent, comme ça c'est un peu à qui perd gagne, quoi, attendent que tous les autres aient crevé pour pouvoir être les seuls prestataires, quoi.
Le problème, c'est qu'on est dans les gros studios, par exemple en France, Dorcel, qui ont déjà l'équivalent d'un Netflix en place. Ils ont leur plateforme de VOD qui coûte, ou un film, une scène peut coûter 10 euros, et de l'autre côté, toutes les scènes coûtent 10 euros par mois. Du coup, ils se tirent une balle dans le pied un peu. C'est très compliqué en fait pour eux de vendre des deux côtés, quoi. C'est-à-dire, en fait, les gens attendent justement qu'à un moment, on soit obligé de passer par là, ou que la VOD soit vraiment écroulée pour pouvoir passer à un nouveau modèle.
Parce que Dorcel, ça fait partie de ces acteurs qui ont choisi une sorte de modèle intermédiaire, à la fois. Ils ont par exemple des chaînes sur les tubes ou...
Ah non, eux, ils refusent catégoriquement
d'être sur les tubes.
Voilà. Ouais. Mais eux, c'est assez différent, c'est que leur business model, et c'est pas que la production de films. La production de films, c'est un peu la vitrine en fait de la marque. Et c'est une marque, qui se développe comme n'importe quelle boîte. Elle pourrait vendre des yaourts et se développer sur toute, comme n'importe quelle marque en fait. D'accord. Et en fait, et le modèle aussi de Dorcel, c'est la distribution. C'est la distribution de contenu des autres. C'est ça qui leur apporte de l'argent en fait.
D'accord.
On se retrouve encore avec, même là, si on parle de VOD, on est dans le même système que les tubes, c'est les distributeurs qui ont le pouvoir.
Et donc aujourd'hui, vous parlez de cette innovation qui sont les tubes. Et en termes de format, parce que quand on regarde ce qu'était Gretel et 3615 Oula, donc bon, là, c'est l'arrivée vraiment de l'image téléchargée rapidement, de façon très, très, très confortable chez soi, et de la vidéo, et aussi de la vidéo, le show, en fait, ce dont vous m'aviez parlé, où vraiment les sexcams, la webcam et le direct finalement, enfin le direct peut-être un peu différé, j'en sais rien.
Direct.
Voilà, finit par être un modèle extrêmement, extrêmement fort et extrêmement rentable aussi.
En fait, on parlait des nouveaux acteurs où les tubes reprennent le pouvoir, mais en fait, c'est à l'heure actuelle, il y en a d'autres qui ont encore plus de pouvoir qu'eux. Ce sont les sites de sexcam. Donc, la sexcam, c'est vieux comme Internet. C'est la diffusion de webcam, mais donc avec contenu explicite adulte. Le modèle avant, on va dire 2010-2011, c'était un modèle qui était ce qu'on appelle en cam-to-cam, c'était un modèle en show privé où en gros on allait sur un site où il y avait énormément, ou pas forcément, enfin voilà, il y a une fille ou un mec qui attend, qui discute, et pour pouvoir passer à une demande un peu plus explicite, on doit payer. Alors soit on paie d'un coup, soit c'est à la minute, voilà. Et donc ça c'était le modèle des sites comme Live Jasmine, pour les plus connus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont développé un modèle qu'on appelle freemium, toutes les vidéos, enfin toutes.
Pas qu'un modèle économique de l'internet,
oui,
très classique.
Voilà, mais qui ont amené en tout cas le modèle freemium, pardon, pour être plus précis, le modèle freemium en fait dans la webcam. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils sont partis du. Enfin, c'est assez étonnant et c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe, puisque finalement on dit oui, les gens de l'industrie de l'adulte pleurent beaucoup sur la baisse de leurs chiffres, mais il y en a d'autres qui sourient beaucoup en ce moment. Et l'industrie de la sexcam pèse à l'heure actuelle 1 milliard de dollars par an. Et c'est.
C'est-à-dire qu'il y a, si on fait le compte de tous ces webmasters qui organisent ces services-là, ça fait 1 milliard de dollars dans le monde. Voilà. Mais alors, si vous pouvez quand même un peu expliquer concrètement de quoi il s'agit, parce que je suis pas sûr.
Alors en fait, ces sites-là, donc ces modèles de cam en freemium, tous les shows à travers ces cams sont gratuites en fait. Sont gratuites parce qu'en fait, on n'a pas besoin de payer. Qui paie, c'est un paiement mutualisé par le public. Oui. C'est-à-dire qu'on est exactement comme dans le même cas d'un club de striptease où si personne ne paye, il n'y a pas de show. Voilà. Et exactement comme dans un club de striptease, un modèle un peu club de strip à l'américaine, hein, pas comme en France. Et on peut être là, boire une bière et regarder sans payer, mais on n'a pas le pouvoir en fait. Si on est là et on met beaucoup plus d'argent sur la table, la fille va venir plus vers nous et va en faire un peu plus. Et on est exactement dans ce modèle-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur un show et n'a pas d'argent, la fille ou le mec en face le sait. Et il pourra parler sur le chat, personne ne va l'écouter. Par contre, on sait quand quelqu'un a de l'argent, on sait même si quelqu'un a beaucoup d'argent, et on écoute plus une demande qui va être tarifée. Voilà, pour 60 tokens, je veux que tu fasses ci, tu fasses ça. Quoi.
Parce que c'est des monnaies virtuelles. Hein.
Oui, sinon ça serait compliqué. On est sur vraiment de la microtransaction, donc on pourrait pas. On peut donner un token. Un token, c'est l'équivalent de 10 centimes. Ça serait impossible de faire une transaction à chaque fois pour des sommes aussi petites. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux de faire une monnaie, une fausse monnaie.
Mais il y a des projections déjà sur l'évolution du sexcam, qui sont apparemment une croissance qui étouffe un peu les.
Sur le modèle freemium, c'est vraiment en train d'étouffer. C'est-à-dire que même les gens dans l'adulte disent, enfin, ceux qui râlent, trouvent que voilà, l'arrivée du modèle freemium dans les tubes, dans la cam, c'est un peu l'équivalent des tubes en fait pour le porno classique.
Non, mais ça pose un problème intéressant que je soulève sur une hypothèse qui aussi traverse tout notre débat là, c'est que l'économie du sexe repose sur cette espèce de postulat comme quoi le sexe serait la base de toute activité humaine, quoi. C'est comme quelque chose qu'il faut poser de façon ouverte, quoi.
Rentable.
Ouverte, le vieux truc marxiste, enfin bon, la demande solvable et tout, quoi. Bon, mais la question, c'est que pour qu'il y ait un marché, bon, il faut qu'il y ait un produit qui se vende et qui soit acheté, qui soit désiré. Mmh. Bon, or apparemment, la sexcam, c'est au point de vue qualité, de mise en scène, de jeu d'acteurs et tout, c'est beaucoup plus faible, beaucoup plus trivial, quoi, a priori, quoi.
C'est assez particulier parce que la plupart des choses, c'est sont en tout cas beaucoup moins hardcore que ce qu'on trouve dans le porno. C'est beaucoup moins trash, beaucoup moins explicite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rapport très intéressant entre la personne, le tipeur, donc c'est la personne qui va mettre l'argent sur la table, et le modèle. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de séduction qui se crée. Et les gens qui mettent de l'argent, des gens qui peuvent mettre énormément d'argent, c'est des gens qui sont amoureux, en fait, de ces gens-là.
Non, mais c'est vachement intéressant, ça, parce que jusqu'à présent, toute l'industrie du porno reposait sur la présentation de fantasmes mis en image. Bon, de fantasmes structurés, romancés s'il le fallait, avec poutons. Bon, et là, apparemment, on est en train de quitter cette mise en scène pour aborder les sujets dans leur intimité, en disant, en gros, la ressource principale du désir humain, c'est la connaissance de l'autre, plus ou moins intime. Alors ça peut aller maintenant jusqu'à une espèce d'amour peut-être provisoire. Hein.
Pour moi, c'est plutôt un retour, en fait.
Affective, de relation, de recherche intime. Enfin, je trouve que ça va être très très long, cette histoire. On n'a pas fini de le dégrossir. Hein.
Je trouve qu'en fait, on retrouve finalement les consommateurs du porno dans les années 90, avec la starification des actrices, on retrouve à peu près ça. Parce qu'en fait, à l'époque, on parlait pas en tag, on parlait moins en fantasme que maintenant avec les tubes, où on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis sur le fantasme. On retrouve un peu ça, c'est-à-dire que les filles ou les hommes qui fonctionnent bien sur ces sites-là, où il y a une concurrence énorme, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là, sur 24h sur 24, sur des sites comme Chaturbyte, MyFreeCams ou Cam4, il y a plus de 1000 personnes qui sont connectées, quoi, qui font des shows, en fait.
S'il y a concurrence, c'est que ça veut dire qu'on voit déjà certains sites où les gens se professionnalisent pour mettre en forme l'intérêt qu'ils peuvent susciter. Enfin.
Mais ce qu'on appelle une cam girl, donc c'est une fille qui fait de la cam.
C'est en train de retourner le problème.
Elles sont professionnelles, elles font ça, certaines gagnent très très bien leur vie. Et il suffit juste d'une webcam et d'un lieu privé, parce qu'on ne peut pas faire de sexcam en public, et suivre les recommandations du site. Il y a certaines pratiques qui sont interdites, mais après, c'est tout. C'est-à-dire que là, maintenant, s'il y a une webcam là, on pourrait s'inscrire maintenant et faire un...
Allons-y.
Il faut juste montrer qu'on a plus de 18 ans, mais il faudrait avoir la carte d'identité de tout le monde, mais on pourrait faire ça.
Mais pour bien comprendre, donc c'est des shows que nous on voit, mais là vous parlez d'interaction. Donc les webcams, elles sont forcément allumées.
Il y a une webcam et il y a un chat, en fait, à droite.
Oui, toujours. C'est ça. Mais
donc, les gens discutent et la personne, le modèle voit, en fait, la discussion.
Le modèle. Attendez. Hop.
La modèle.
C'est ça. Mais en fait, les gens se voient ou ne se voient
pas ? Non, on se voit pas. On ne voit pas dans ce modèle-là.
C'est-à-dire
qu'il y a quand même des shows où il peut y avoir 5 000, 10 000 personnes connectées.
Oui, d'accord. Non, parce que moi, je reviens à l'idée aussi de...
Et si on voyait les gens, ouais, ça marcherait beaucoup moins.
Oui.
Ils ne voudraient pas être vus, tout simplement.
C'est ça,
ils ont tous des pseudos. On revient à Gretel, où ils ont tous des pseudos impossibles.
Oui, il y a le côté anonymat qui est fondamental. En même temps... Il y a ce mouvement dont je vous avais parlé qui, je trouve, intéressant, c'est aussi la... Alors là, on parle éventuellement de pornographisation des technologies, mais le terme est contestable. Mais sur Facebook aujourd'hui, ce dont je vous avais parlé, c'est que il y a tout un réseau aussi dans le réseau de shows, de sexcam ou d'escortes déguisées qui viennent alpaguer les gens sur le chat dès lors qu'on devient ami avec un peu n'importe qui. Et qui viennent ensuite, hop.
Les gens qui font ça sont des webmasters, voilà, qui vendent les produits de ce qu'on appelle des sponsors. Les sponsors, c'est ceux qui fournissent le service, le produit, le contenu, peu importe. Ça va du porno classique, la VOD, à service de sexcam, au sextoy, ou ça peut être de tout, en fait. Mm. Et en fait, ces gens-là, soit par l'intermédiaire de vraies personnes ou par l'intermédiaire de bots, arrivent à récupérer des gens souvent assez naïfs.
Oui.
Bots, précisez bots, tout le monde ne connaît pas. Oui, bot. Tout le monde ne connaît pas bot. Tout le monde connaît
un bot. Un bot, c'est un ordinateur. Oui. Un robot. Voilà.
Merde.
Et donc, en fait, c'est le travail de ces gens-là, c'est de récupérer, récupérer des clients. Donc, les amener vers un service. C'est comme quelqu'un qui va le paguer dans la rue pour ramener dans un sex shop. Enfin, bon, dans un sex shop, dans un
Et y a des
dans un type show plutôt, voilà, ouais. Comme à Pigalle, même si ça n'existe quasiment plus. C'est la même chose, sauf que là, cette personne se déguiserait en femme pour amener un public masculin vers ça.
Il y a des comparateurs de sites pour les sexcams. Non, mais sérieux.
C'est possible, parce qu'il y a un business de la promotion du contenu de ces sites-là. Donc, comme tous les sites comparatifs, c'est un business de on amène des clients, donc il y a forcément une commission. Les sites de comparatifs de billets d'avion, de sites de rencontres, peu importe, à partir du moment où c'est pour récupérer des clients et les amener quelque part et avoir une commission en fait sur la vente derrière. C'est pas anodin, les gens font pas des comparateurs pour le fun.
Et je pense à ces filles, ça peut être, j'imagine, des hommes, mais par rapport au marché, parce que bon, là on parle de modèle économique, mais on peut parler aussi du marché du travail, des actrices porno ou des acteurs porno, est-ce que l'arrivée d'Internet a fondamentalement changé aussi leur travail ?
Ah bah, donc il y a Angel Summers qui est là. Mais...
Est-ce que c'est celles qui font ces shows en ligne déjà ? Est-ce que ce sont des gens qui viennent de l'industrie du porno ?
Non, c'est vraiment très. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de filles de l'industrie porno, beaucoup d'acteurs et d'actrices de l'industrie porno qui font de la sexcam parce que c'est il faut récupérer de l'argent, il faut vivre.
C'est l'argent facile en fait.
C'est pas de l'argent facile en fait, parce que c'est très difficile de faire payer quelqu'un, de faire lâcher des tokens. C'est pas c'est pas si simple que ça en fait, cette relation.
Elles sont pas embauchées. Enfin, voilà, elles ont pas un CDI ou voilà.
Ça dépend les services. Mais services classiques, on va dire en tout cas le modèle freemium que moi m'intéresse, c'est entre 50 et 70%, ça dépend le site, ou voire un peu moins quelquefois sur d'autres. Mais on remarque quelque chose, c'est simple. Je dis pas ça méchamment. C'est que les actrices porno ou les acteurs marche moins bien en fait sur ces ont moins l'habitude en fait d'alpaguer, d'amener en fait parce que c'est pas le même métier, c'est tout simplement pas le même métier. Et les stars de la sexcam à l'heure actuelle c'est des gens qui n'iront pas de son dans le porno et ne viennent pas du porno et resteront que dans le parce que il y a pas de rapport avec un producteur, il y a pas d'acteur, c'est souvent des gens qui sont en couple. La cam on peut l'arrêter quand on veut,
c'est de l'auto-entrepreneuriat en somme,
c'est
quoi.
Ça voilà,
oui.
Et comment réagit également l'économie traditionnelle, enfin l'économie des studios par rapport à ça ? Vous disiez que bon, il y a eu des procès par rapport aux tubes, etc. Aujourd'hui, la situation s'est complètement apaisée.
Soit ils travaillent avec les tubes.
Les studios, c'est-à-dire ils ont des chaînes sur les tubes.
Ils ont des chaînes sur les tubes, comme Universal a une chaîne sur YouTube.
Et là, ils gagnent de l'argent comment, du coup ?
Ils gagnent de l'argent, en fait, à la commission. Il faut savoir qu'en fait, la publicité sur Internet, dans la pornographie, c'est pas une publicité à l'impression ni au clic. Enfin, ça l'a été, mais c'est quasiment plus le cas. C'est, depuis des années, ce qu'on appelle de l'affiliation. C'est de la publicité à la commission. C'est-à-dire, toujours pareil, hein, si un client arrive, on reverse une commission. Dans la VOD, on est à peu près à 50% de commission. Ça peut aller jusqu'à 70%. Dans la sexcam, on est à peu près entre 20-30% sur les sextoys aussi.
Donc, si on prend un exemple, prenons l'exemple par exemple du tag parfait.
Oui.
Pour expliquer le phénomène de l'affiliation, parce que je sais que c'est pas forcément très simple les modèles économiques de la pub en ligne. Donc aujourd'hui, vous avez un site éditorialisé avec des contenus. Comment on peut se faire rémunérer via l'affiliation sur un site comme le vôtre ?
Alors je vais faire très vite parce que après ça déborde un peu du sujet, mais
ça fait partie du modèle économique.
Oui, oui, allons-y. Alors, le problème c'est que les marques ne travaillent pas avec le porno. Les marques mainstream, Samsung ne va pas. Carrefour n'ira pas annoncer sur le tag parfait et encore moins il n'ira jamais même s'associer même avec le sexe. Voilà. Ça c'est clair et net et ça va pas changer.
C'est les annonceurs et les agences médias qui le refusent.
Voilà, les agences médias bloquent systématiquement. Certains annonceurs vont y aller. Il y a des cas, il y a certains cas, mais c'est des contre-exemples, c'est pas des exemples. Et donc voilà, moi pendant des années, je me suis dit bah oui, on essaie de faire un truc un peu pré-clean, on a quand même des relais médias intéressants, et je me suis dit bah on a une audience intéressante. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce modèle-là mainstream. Je suis revenu en arrière, j'ai vite compris que c'était pas la peine et que de temps en temps j'aurais ces modèles-là, mais la plupart du temps c'est pas possible. Donc en fait, en plan B, j'ai toujours eu l'affiliation. Mais moi qui ne correspondais pas forcément à mon modèle, puisque je suis avec des lecteurs qui n'achètent pas. Et ça, je savais. Donc, des 18-30 ans ne vont pas s'abonner sur un site, même aussi bien, même le meilleur site du monde, il va, du moment qu'il peut l'avoir en gratuit à côté, peu importe que ce soit sur des tubes, en torrent, il va pas. Il a pas quelqu'un qui a 25 ans n'a pas le budget pour mettre. Pour payer de la pornographie, et encore moins quand c'est $30 le site, quoi. Et qu'il faut multiplier les sites. Donc en fait, voilà, ça a toujours existé sur les sites équivalents au Tag Parfait. Aux États-Unis, ils basaient leur modèle communiqué sur l'affiliation, mais de manière très... c'est vraiment promotionnel tout le temps. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut amener quelque chose d'intéressant et pas se forcer à parler de contenu qui souvent, en plus, ne nous intéresse pas. Donc voilà. Mais j'ai commencé à le mettre en place de manière assez discrète sur des produits qui je trouve intéressants, comme par exemple la sexcam, et faire un travail de curation par exemple sur qu'est-ce qui se passe d'intéressant, raconter des histoires et voilà. Et si par hasard la personne derrière va sur ce site là et consomme, moi je récupère un peu d'argent, mais je peux pas trop le faire parce que sinon ça tue ma ligne éditoriale, quoi. Et c'est peut-être déjà en train de le tuer, je ne sais pas, mais c'est assez délicat de faire ça, c'est très délicat. C'est-à-dire que si Libération ou Le Monde faisait ça, ça serait un scandale. Nous, voilà. Mais donc c'est pas, ça marche, mais ça dépend ce qu'on vend. Et le problème, c'est que l'affiliation fonctionne à l'heure actuelle sur des produits qui sont extrêmement agressifs et faits avec des webmasters qui travaillent ça, la publicité, de manière très agressive. Et par exemple, sur les sites porno, un tube porno, quand vous voyez des publicités vraiment où il y a écrit une mamie à 3,2 km vous attend, voilà. En fait, des gens derrière, c'est pas des gens du porno, c'est des gens qui travaillent le porno, c'est des webmasters, mais c'est des gens qui travaillent la rencontre. Et c'est-à-dire que derrière, ils vont vendre un truc qui va s'appeler 1, 2, 3 cougars, ou peu importe, avec un truc extrêmement agressif pour vous voler votre carte, limite voler votre carte bleue. Et voilà, et c'est intéressant de savoir que finalement, c'est des gens c'est des webmasters dans la rencontre qui paient en fait une partie quand même qui font quand même l'économie des sites porno. On est même plus, ils vendent même plus en fait. Ils savent que la VOD ne marche pas, donc ils en sont en ce moment à faire de la rencontre. La prochaine étape, c'est de la voyance. Ils s'en foutent en fait.
Oui, mais ça, c'est intéressant justement. C'est des gens en fait qui ne sont pas forcément. Ils se spécialisent dans l'économie du sexe, mais ils pourraient se spécialiser dans toute autre chose, dans le jeu d'argent, le tarot, la voyance.
C'est des gens qui sont intéressés que par l'argent. Il y a pas de.
C'est que l'argent.
Bah, de toute façon, dans le porno, la religion, hein, c'est l'argent, quoi qu'il arrive. Enfin, dans le porno mainstream. Et ça, c'est comme ça. C'est des gens souvent très, très, très cyniques. Et encore plus les webmasters. Parce que eux, voilà, la seule réaction qu'ils ont, c'est sur leur revenu. Hein.
D'accord. Mais alors, du coup, si on regarde de façon très macro, tout ça, donc en 1983, à partir de, disons, le Minitel Rose, l'acteur qui gagnait de l'argent, c'était France Télécom. Ensuite, à la télévision, Canal+, puis la VOD, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, les revenus de la pornographie sont mieux distribués, enfin, mieux distribués, c'est pas normatif, mais sont distribués parmi plus d'acteurs qu'avant? Ou alors, est-ce qu'on tombe toujours
C'est l'inverse, ça se concentre vraiment énormément, par exemple, sur une boîte qui est une holding extrêmement importante qui s'appelle MindGeek, qui contrôle toute la chaîne de production du début à la fin, la distribution. C'est eux qui ont racheté YouPorn, c'est ceux qui ont créé Pornhub, c'est eux qui ont créé Pornhub, donc qui est un tube porno, mais en parallèle de ça, ils créent aussi Brazzers, qui est un studio de production. Donc ils sont des deux côtés et ils ont agglutiné tout, ils ont mangé tout le monde. Et à l'heure actuelle, c'est même, de mes chiffres, ils concentrent quasiment 30% des revenus du porno actuel, classique, on va dire, hors sexcam, est concentré sur une seule boîte dans le monde, qui emploie 1000 personnes.
Je reviens au sexcam, enfin, c'est quand même une concurrence très importante, là. Je pense que c'est difficile de savoir comment ça va évoluer. N'empêche qu'il y a un problème intéressant. Il y a un acteur qui est en train de monter en position dominante, parce qu'il est presque le seul maintenant à faire du produit. Et en fait, il y a des tas de gens qui pratiquent une autre forme de production, qui sont des concurrents directs.
Hein. Et en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que MindGeek, qui est vraiment une très grosse boîte, à des concurrents, et ces concurrents, c'est les seuls qui n'arrivent pas à racheter parce qu'ils sont devenus trop gros, c'est les sites les sites de sexcam. Des sites comme Camfort, c'est énorme, et c'est des gens qui sont qui n'ont pas de problème, en fait, parce que c'est très bien vu, parce qu'il y a pas de voilà, on n'est pas dans la production porno, donc c'est assez différent. Et il y a Camfort, il y a aussi Live Jasmine, Chaturbate, et tous ces gens-là deviennent. Alors moi j'ai pas exactement les chiffres pour ces boîtes-là, parce que c'est vraiment obscur, mais c'est des gens en tout cas, eux pourraient racheter ManGeek en fait à l'heure actuelle. Et tout reconcentrer sur la même chose. Et ManGeek essaye de développer de la webcam, mais c'est trop tard en fait. Le public a déjà choisi.
Donc en fait, ce qu'on observe, et c'est ce qu'on observe aussi sur beaucoup d'industries qui se sont fait désintermédier par Internet, l'espoir c'était de distribuer les revenus d'une industrie musicale, d'une industrie des jeux d'argent, d'une industrie, etc., entre des acteurs beaucoup plus divers et multiples. Et en fait, on retombe toujours vers des logiques monopolistiques.
Quand on peut se permettre de racheter les concurrents, oui, c'est sûr que ça concentre.
Mais les sexcam sont encore en nombre suffisant, les sites sexcam, où ils commencent eux aussi à se concentrer.
Ils se concurrencent très fortement aussi, entre eux.
Donc ça se consolide.
Il y a des sites, il y a un site qui s'appelle Chaturbate à l'heure actuelle qui explose complètement, et qui est en train de grignoter très sérieusement la part des autres. Mais on n'est qu'au début là, ça, c'est des histoires qu'on compte 2-3 ans.
Je reviens encore à la question, parce que dès qu'on dit économie, dès qu'on dit marché, on dit produit, on dit valeur du produit, intérêt du produit, etc. quoi. Bon, apparemment, il y a la concurrence entre deux types de produits, entre sexcam et puis production. Donc, lequel va l'emporter ? Qu'est-ce qui permet de dire que dans quelques temps, peut-être, il y aura un basculement tout à fait des types de produits pornographiques ?
On n'est pas loin d'un basculement, mais en tout cas, peut-être pas là où on l'attendait. L'intérêt de la sexcam, c'est que c'est du live, donc c'est impiratable. Et de toute façon, regarder du live qui a été enregistré après, il n'y a plus le. Voilà, c'est comme regarder un match de foot après. Si on sait déjà le résultat, c'est pas très intéressant. Entre guillemets. Parallèle n'est pas terrible.
C'est aussi simple.
Mais par contre, ce qui est en train d'arriver, c'est aussi, par exemple, à mon sens, la réalité virtuelle va complètement va tout changer dans le.
C'est l'étape d'après.
L'étape d'après, ouais. C'est déjà le cas maintenant. Mais bon, le marché n'est pas encore là, puisque les casques, tous ces casques-là, tout ça est très récent, tout ça est très, très rapide. Ce qui est fou, c'est que je parle de ça, il y a 6 mois, j'aurais pas dit ça. J'aurais même pas pensé à ça. Mais en ayant mis plusieurs fois un casque sur la tête et en regardant du porno immersif, c'est fou. On va arriver dans quelque chose où on va vraiment vendre vraiment une expérience porno, et ça va être difficilement piratable. On va pouvoir dire voilà, on va vendre du porno comme on vend de la drogue.
Et alors du point de vue techno, d'abord une remarque historique peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 97-18, on commençait à parler de cybersexe. Bon, et à quoi ça consistait à l'époque ? C'était soit des gants plus ou moins tactiles, soit des combinaisons qui permettaient à distance de faire des caresses et de produire des effets plus ou moins réussis. Quoi. Bon, ça s'est passé, c'est retombé. Il y a des gens qui se sont dit, ça y est, tout va changer. Bon, c'est retombé. Quoi. Par contre, tout ce qui est immersion, justement, donc la question qui se pose, est-ce que ça veut dire que ça passe par les avatars maintenant ? Ou ça va plus loin encore ? Autant
il y a,
que ça chier, quoi.
Il y a plusieurs
formes. Les avatars, au fait, peut-être on peut préciser. Non. Bon, sur c'est même plus qu'un écran maintenant, sur un environnement en 3 dimensions. Hein, vous avez peut-être déjà vu une exposition où on vous donne l'impression d'être dans. J'ai assisté l'autre jour, il y a quelques mois, c'était en Écosse. La reconstitution de la bataille extraordinaire où les Écossais ont battu les Anglais il y a trois siècles. Quoi. Donc c'était étonnant. Il y avait des cavaliers qui arrivaient, il y avait des flèches qui volaient partout. Enfin, on était dedans. Quoi. Bon, donc alors. On est dans ce genre de situation et on est représenté pour le moment. Un avatar, c'est quelqu'un qui vous représente en tant qu'homme ou que femme dans telle ou telle situation. Alors, est-ce que ça va plus loin actuellement ? À ma connaissance, j'en sais rien. Là.
En fait, ce qui se passe, c'est que cette utopie de réalité virtuelle des fin 90, qu'on a abandonné très rapidement pour des questions techniques, là et maintenant, elle devient réelle, devient vraiment tangible et devient même extrêmement impressionnante. Et impressionnante même pour l'humanité. Hein. Je pense qu'on est un basculement. Peut-être paranoïaque, j'en sais rien, mais je pense qu'on est un basculement. Je pense que l'humanité va vers une grande schizophrénie, là, parce que quand on trouve qu'une autre réalité est plus intéressante que la nôtre, ça pose quand même certains problèmes quand on enlève le casque.
Non, mais ça règle le problème du sida aussi, hein, par exemple.
Oui, oui mais enfin, je ne pensais pas à ça. Mais...
Donc ça te prie. Quoi.
Oui, ça c'est dans Demolition Man. Ouais. Oui, donc en fait, ce qui va se passer, pour faire vite sur la réalité virtuelle, c'est qu'évidemment, il y a des métavers comme Second Life qui existent déjà, en fait, hein, mais sexuels. Après, le problème, c'est qu'on est sur l'avatar, n'est pas même. Il reste quand même assez mal modélisé, même si on a bien avancé, mais c'est pas non plus, on n'est pas comme là, je suis devant vous quoi. Et
ça demande, enfin là quand même, les sex cams, bon, ok, il suffit d'un webmaster, une nana ou un mec, voilà. Enfin, on parle quand même de technologie là, à gros investissements financiers.
Pas tant que ça en fait. Non, parce que filmer à 360 degrés en 3D. C'est possible bientôt là. C'est-à-dire que Samsung sort une caméra bientôt, 180 filmer et avoir vraiment cette impression d'immersion en 180 degrés 3D, parce que vraiment la 3D c'est important sur la vidéo, parce que dans un casque si c'est pas en 3D c'est vraiment, ça marche pas. Ça existe déjà et en tout cas moi de ce que j'ai testé c'est
pas cool.
Je savais même plus comment réagir devant l'image parce que quand quelqu'un arrive devant vous comme ça et vous avez vraiment l'impression que c'est cette personne et vous la sentez en fait parce que il suffit juste qu'il y ait le visuel. On n'a pas le toucher, mais on va pouvoir l'avoir. Mais c'est le plus important, c'est ça, et le son. Et l'ouïe, le cerveau est complètement troublé. Et je me suis retrouvé comme ça, donc devant de la pornographie, où une fille s'approche, elle est là. Et à un moment, elle est là, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai eu un rire nerveux, je ne savais pas. Comment
ça ne rappelle pas les débuts du cinéma, là, quand les gens s'enfuyaient quand ils voyaient une locomotive qui arrivait vers eux. Quoi.
Mais ça fait plusieurs fois que j'essaie, et par exemple, des sensations de vertige dans un univers modélisé, pour l'instant, je les ai toujours, hein, et mon cerveau, il n'a pas bougé, enfin, il n'a pas muté pour se dire, bah non, tu n'auras plus jamais le vertige, quoi.
Et ça, donc, les studios, ils...
On est là, ils sont en train de produire, MindGeek est en train de produire du contenu à l'heure actuelle, je sais que c'est en montage en ce moment. Il y a une boîte espagnole qui fait des choses assez intéressantes. On est hyper limité au niveau de la technologie, mais c'est assez fort. Et donc, la question, c'était quels vont être les prochains modèles. Je pense que les tubes vont mourir un jour ou l'autre, vont se transformer dans un modèle vraiment freemium ou des sortes de Netflix. On va vers là. Enfin, je sais pas, MindGeek va sortir ça un jour. Et quand eux qui ont le pouvoir, eux qui consentent tout, vont décréter, vont dire voilà, maintenant on passe à l'équivalent de Netflix pour le porno, ça va changer complètement tout le reste. Et il y a le live qui. Live, voilà, c'est le direct, ça joue régulier. Ça, dans son temps, on sera toujours excité par le direct. Et après, voilà, il y a tout ce qui va être réalité virtuelle. Ça, je parais peut-être un peu trop excité par ça, mais je suis vraiment excité par ça. Quoi.
Il est vraiment excité.
J'ai eu un peu la même impression que quand j'ai regardé mon premier porno, en fait.
D'accord.
C'est longtemps. Et...
voilà, on est parti de Gretel. On est arrivé au porno 3D. Peut-être qu'il est temps de vous demander, vous, dans la salle, ce que vous en pensez.
Bonjour. Quand vous parliez des tubes, tout à l'heure, vous parliez principalement des studios. Vous avez fait l'impasse totalement sur tous les tubes amateurs et le développement, justement, de tous les amateurs qui, au contraire des professionnels, se mettent à poster de plus en plus de vidéos et se mettent, justement, à supplanter les acteurs porno parce que ce qui intéresse apparemment les gens actuellement, c'est ce qui se passe à la maison. Donc de l'amateur, donc il y a du vrai faux amateur, mais tout ça vous l'incluez absolument pas dans votre économie.
Alors le vrai amateur qui ne fait pas d'argent, donc c'est la définition de quelqu'un qui est amateur, ça n'existe pas tant que ça en fait. C'est un peu fou. Oui. Ils la prennent pas dans la rue. Non, c'est pas possible. Non, mais ils apprennent pas dans la rue. C'est des gens qui, bon, Joachim Michel, c'est un peu particulier, mais c'est des acteurs. C'est la porte d'entrée du porno à l'heure actuelle en France. C'est Joachim Michel. Donc c'est des gens qui progressivement vont devenir professionnels ou pas, ou vont peut-être faire une scène ou deux. Voilà, on est tombé extrêmement mal d'ailleurs. Mais il n'y a pas de, ou ça peut être des gens qui veulent faire une expérience, mais on est quand même on n'est pas dans l'amateur là, c'est du faux amateur. Et ça en fait, l'amateur, cet amateur là, En fait, l'industrie du X s'est rendu compte dans les années 90 qu'il y avait une demande, une énorme demande, en fait, sur le réel, parce que le réel est quand même très excitant et c'est un très gros levier d'excitation. Et ça le sera toujours. D'ailleurs, on le revoit dans le live, on le retrouve toujours. Mais quand ils ont vu ça, ils se sont dit, il y a un marché, et bah, si le public demande ça, on va lui offrir ça. Donc on va tout faire pour que ça fasse amateur. Mais le contenu vraiment amateur sur les tubes, c'est-à-dire, moi je vais faire une sextape ce soir et je vais la poster sur les tubes, ça c'est quand même c'est très minoritaire en fait. Mais vraiment.
Notamment sur des vidéos de fêtes aux États-Unis de jeunes étudiants, même ne serait-ce que des Français, des vidéos qui sont faites par des Français. Je connais un petit peu le milieu. Je vous promets qu'il y a vraiment pas mal d'amateurs sur tous les trucs, que ce soit YouPorn, X-Hamster et tous les trucs comme ça. Il y a quand même, à chaque fois, vous avez une vraie section d'amateurs qui existe réellement, où c'est tourné, la vidéo est dégueulasse. L'image est dégueulasse, le son est à moitié pourri, mais vous avez 1 250 000 vues. Donc ça, visiblement, ça intéresse les gens aussi.
C'est intéressant, je ne le nie pas, mais c'est dans la globalité, c'est une part minoritaire. Il suffit de regarder dans le top de ce qui regarde, de ce qui est vu, tout simplement, sur ces tubes-là. Qu'est-ce qui est le plus vu dans la semaine, il va y avoir de l'amateur, il va en avoir peut-être un ou deux, mais sur la globalité, c'est quand même énormément du contenu produit. Et après, il y a aussi du contenu qui est volé amateur. Moi, je me suis retrouvé avec une sextape sur les tubes. Pardon. De ce que j'avais fait, j'ai fait modèle pour tester la sexcam. Voilà, et je me suis retrouvé un jour avec quelqu'un qui m'a dit « Ah tiens, c'est marrant, je crois que tes petites escapades sont trouvées sur un tube. » Oui, ça, je ne l'avais pas prévu. Mais ça, ça, c'est complètement amateur, mais c'est du contenu volé. Hein. Et il y a quand même beaucoup de contenu vraiment amateur qui se retrouve aussi... sur les tubes et qui vivent. Moi, je sais que maintenant, c'est des vidéos de moi qui sont ripées, qui sont sur Internet. Je vous donnerai pas l'adresse, mais ça existe. Et je sais que jusqu'à la fin de ma vie, je vais passer mon temps, quand ça va ressortir, à faire des demandes de suppression pour droit d'auteur. Voilà. Mais ça, il y a beaucoup de gens aussi hein, qui se retrouvaient comme ça et qui se retrouvent indéfiniment sur les tubes. Les gens où les tubes uploadent du contenu, peu importe le contenu, on est vraiment dans un système où ça serait, chaque contenu serait un grain de sable, on prend une pelle et on l'envoie, quoi. Donc peu importe ce qu'il y a dedans, en fait. Malheureusement.
Bonjour. Bah, en fait, je voudrais répondre juste au monsieur qui vient de parler déjà du porno américain soi-disant amateur. J'y ai tourné, en fait, aux États-Unis avec ces productions-là, et elles ne sont pas forcément amateurs. Elles font... souvent, en fait, style amateur, et elles ne le sont pas. Donc, déjà, pour répondre, le véritable amateur, je pense que je suis d'accord, en fait, avec le monsieur du tag. Ça, enfin, c'est plutôt des vidéos volées que réellement, parce que bah, même le Jackie Michel, il y a des contrats de travail. Donc, ce n'est pas pour moi, en fait, du porno amateur, mais ça fait partie aussi du porno qui peut tuer le porno pro d'un côté.
Le terme technique, c'est pro-am. Voilà.
C'est pro-am, ça, c'est le pro-am. Parce qu'en fait, ils font semblant que ce soit amateur. Et j'aimerais juste relever en fait une chose depuis le début. Tout ceci est très intéressant sur l'économie du porno. On parle des webmasters, des productions. Et on oublie que tous ces changements nous perturbent en tant qu'acteurs et actrices.
Ah, j'ai posé la question.
Je voulais rebondir.
Non, mais on en parle très très peu en fait, effectivement. Parce que bah, forcément, nous, ça nous touche aussi beaucoup. Enfin, moi plus, depuis maintenant un peu plus d'un an. Mais ça nous touche forcément énormément. Les webcams en font partie, effectivement. On se retrouve à faire de la webcam, même si ce n'est pas notre truc, parce qu'on ne touche plus forcément d'argent. Et les films, certaines productions se mettent à la webcam, notamment pour filmer les tournages, en fait.
Et en fait, la différence, si je peux me permettre de parler... Angel Summers, qui a travaillé dans le porno pendant 6-7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, à peu près, voilà. Donc, connu, en fait, quasiment l'arrivée des tubes, si je dis pas à peu près, hein. Enfin, en tout cas, parce que les tubes sont arrivés, mais enfin, avant que ça fasse un raz-de-marée, il a fallu attendre un ou deux ans. Et la grande différence, c'est qu'en fait, avant, les actrices porno étaient vraiment pris en charge, entre guillemets, par les studios, même si en France, c'est compliqué pour des questions de proxénétisme. On peut pas non plus faire la publicité d'une actrice, c'est un peu délicat, mais en tout cas, si on prend aux États-Unis, c'était les studios qui s'occupaient de la promotion, et avec la baisse des revenus, c'est les actrices et les acteurs qui se sont retrouvés en fait à gérer eux-mêmes leur communication, leur image à travers les réseaux sociaux, et à développer en fait, bah voilà, tout un système parallèle pour récupérer de manière soit de l'argent, soit en nature à travers des wishlists Amazon, énormément de choses comme ça. Et elles sont, voilà, la grande différence, c'est qu'elles ont dû s'occuper soi-même en fait de tout ça, quoi.
Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Donc vous avez mentionné à plusieurs reprises la manière dont Internet redistribuait les cartes dans les rapports entre la production et la diffusion. Et un peu, pour continuer sur ce thème-là, je me demandais si vous aviez des choses à dire sur la manière dont ces différentes évolutions liées à Internet changent la répartition entre le capital et le travail, dans le profit qui est généré à travers ces différentes plateformes numériques, quelle part va au capital, quelle part va au travail, parce que du coup il y a des nouvelles formes de travail précaire, de travail non rémunéré, d'acteurs, d'actrices qui vont d'une plateforme à l'autre en fonction. Donc est-ce qu'on peut tirer des
plateformes porno ou plateformes de sex-cam?
Alors j'utilisais ça de manière assez générique et assez floue pour parler aussi bien des sexcam que des porntube, que des est-ce qu'on peut dire des choses sur la manière dont ces différentes évolutions technologiques elles changent le rapport de pouvoir entre le capital et le travail.
Il y a de plus en plus de précarité pour les acteurs et les actrices. Ça, c'est évident, puisque un marché qui s'est divisé par deux. Après, je pense que Angèle serait plus à même de répondre.
Sur la diminution des tarifs en fait, par scène, je pense qu'elle a été drastique. En fait.
Si le marché est divisé par deux, tout est divisé par deux, voire quatre derrière. Donc, c'est assez compliqué. Quoi.
Ça fait des nouveaux emplois chez les webmasters. Dans l'informatique.
Et puis aussi
les webmasters aussi, tout ça baisse. Mais pour moi, c'est une mutation. Ça se trouve, dans 5 ans, on est revenu dans le sens. Si on peut faire un parallèle avec la musique, c'est le même entre guillemets cataclysme que l'arrivée du MP3 pour l'industrie du disque ou le streaming pour le cinéma, quoi. Mais c'est une mutation. C'est aussi à l'industrie de réagir. Bon, c'est assez extrêmement libéral, je viens de dire, mais c'est difficile. Là, on est quand même dans un truc complètement mondialisé. C'est pas un milieu, en tout cas, c'est pas un milieu marrant le porno. Hein. C'est un milieu, où le seul intérêt étant de faire de l'argent.
Je crois qu'on peut faire deux remarques plus générales qui englobent ces questions qui méritent beaucoup d'études d'ailleurs. Hein. Bon, on voit déjà la tendance. Hein, c'est clair. La première remarque, c'est que ça a plus ou moins déjà été introduit ici, la première hypothèse, c'est que chaque révolution technologique dans le domaine des communications induit de nouvelles formes de pornographie, de représentation du sexe, d'usage du sexe, etc. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que de dire que le sexe en général est à la base du fonctionnement de toute l'économie. Ça, c'est une autre hypothèse. Hein. En tout cas, on peut faire l'histoire de depuis l'imprimé, l'invention de l'imprimerie, avec la circulation des images, depuis l'invention de la radio, du téléphone, etc. Quoi. Donc ça, c'est la première remarque qui donne quand même un peu un cadre. L'autre remarque, qui est plus générale encore peut-être, c'est que, mais qui est économique fondamentalement, c'est qu'on voit bien que derrière, ne serait-ce que les sexcams maintenant, dont j'ignorais l'effervescence, là, c'est des choses qui ont été prévues déjà. Bon, il faut bien se référer à quelques grands ancêtres. Je ne parle pas de Landaré, hein. je parle de Marx, par exemple. Enfin, qui avait été le premier à dire l'évolution du système dans lequel on vit repose sur la destruction des cercles qui existaient précédemment, l'ouverture de leurs frontières pour libérer des forces énergétiques, des forces d'achat, des forces de... Donc, la première image, c'était en particulier l'évolution des campagnes vers les villes. Les ouvriers des villes, c'était les gens qui étaient à la campagne. Bon, la deuxième image, beaucoup plus récente, c'est l'explosion des cercles d'intimité matrimoniale ou familiale qui sont à la base, évidemment, de ce que Eva Hughes, par exemple, appelle la sexualité récréative, qui alimente de nouveaux marchés, qui était impensable il y a une cinquantaine d'années. Donc là, il y a un phénomène très important qui force à réfléchir sur les rapports entre l'évolution du système dans lequel on vit, les problèmes économiques de valeur, les problèmes sociaux de fermeture, d'intimité, d'ouverture, de transparence. Tenez une petite parenthèse, Modiano, là, j'ai vu le texte qu'il a fait à Stockholm pour sa réception, eh bien, c'est Modiano, mais il parle de toute son enfance, sa nostalgie de l'époque où les villes avaient des coins cachés, on pouvait se balader dans des petites rues obscures, des ruelles obscures, enfin, l'espèce d'un âge d'or. Au contraire, d'ailleurs, l'âge d'or, ça brille. Mais un âge d'or de l'intimité, du caché, pourquoi pas du sacré pendant qu'on y est. Alors que là, on a l'impression qu'on est en train d'ouvrir au maximum et d'extraire chaque fois, certains diraient, quoi, bon, les forces pulsionnelles qui sont à la base de tout fonctionnement social. Hein. Alors bon, tout ça, ça tient, c'est ça qui est très difficile à penser globalement. Quoi. J'en dis pas plus.
Non, je ne vous coupe pas. Enfin, je réfléchis à ce que vous dites. Je ne suis pas sûre d'être d'accord, mais Mathieu, tu
veux... J'avais une question, c'était justement là-dessus. C'est qu'en effet, c'est vrai qu'il y a l'hypothèse de Marx, aussi l'hypothèse d'Illouz, ou des choses comme ça, de désencastrement en fait, des rapports sociaux par rapport à l'économie. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de travaux qui permettent de questionner, d'une certaine manière, la manière dont vous faites l'histoire du porno, qui semble marquée à la fois par un certain déterminisme économique, comme si c'était les forces du marché, en fait, qui expliquaient la production, ou bien par un déterminisme technologique. C'est-à-dire que, et en effet, le porno investit les nouvelles technologies en premier. Mais en fait, du point de vue d'autres rapports sociaux, et vous avez pris l'exemple de la pornographie qui, en effet, a investi de nouvelles technologies, mais ça n'a strictement rien changé du point de vue des rapports sociaux de sexe. Et la manière dont s'organise la pornographie ne s'organise pas uniquement par rapport à des logiques économiques ou par rapport à des logiques technologiques, mais par rapport à des logiques sociales plus larges. Donc, peut-être une des questions qu'on pourrait poser, donc indépendamment, en fait, en effet, de la manière dont fonctionne le marché du travail et le marché de la pornographie, qui fonctionne pas seulement, qui fonctionne aussi selon des logiques de genre et de sexualité. On sait par ailleurs en sociologie qu'il n'y a pas de révolution des structures familiales ou sexuelles depuis les trentaines d'années. Il y a quelques phénomènes qui sont mis en avant, en effet, où on essaie d'appréhender la sexualité comme un marché. En fait, qu'on va faire du terrain ou qu'on essaie d'objectiver ça avec des stats, on se rend compte que finalement, en effet, il y a des évolutions, mais qu'elles sont beaucoup plus lentes que les discours en termes de révolution sexuelle laissent à le penser. Et peut-être, par contre, on pourrait se demander, est-ce que les évolutions que vous pointez, si elles ont des causes technologiques ou économiques, auraient éventuellement des causes, mais surtout peut-être des effets sur d'autres rapports sociaux.
Bon, là, je suis loin, évidemment, d'avoir dit que c'était à cause de la technologie que tout ça arrivait. On est d'accord. Bon, maintenant, là, il y a quelqu'un qu'on a à peine cité, enfin, ou pas du tout, c'était Bernard Stiegler, que vous connaissez sûrement, quoi. Bon, c'est toute la réflexion générale, encore une fois, sur quel est le fonctionnement d'une économie. Peut-être il n'est pas suffisamment su que c'était le neveu de Freud lui-même, dans les années 30, qui a fait un petit bouquin qui, pour la première fois, théorisait l'importance de la publicité et donc du pouce à jouir, de l'utilisation du désir de consommer. Mais derrière le désir, il y a toujours d'autres désirs, quoi. C'est le premier qui a théorisé et formalisé en fait la société dans laquelle on vit, qui repose principalement sur la publicité au sens large. Hein. Il ne s'agit pas seulement des produits de consommation, ça va jusqu'à la politique, etc. etc. quoi. Donc la question du qu'est-ce qui fait bouger les gens, qu'est-ce qui les fait désirer, qu'est-ce que c'est le désir individuel, comment il est, est-ce qu'il n'est pas trop poussé, Stiegler, à force de trop tirer sur la queue du désir, peut-être qu'il y a une espèce de débandade généralisée. Enfin, lui, il est très pessimiste sur la question, mais enfin, il faut poser la question quand même, quoi. Hein, c'est...
L'approche en termes d'un marché qui poserait sur des pulsions. En fait, justement, je pense que là, une approche en termes sociologiques, c'est intéressante, puisqu'en fait, on peut considérer qu'il ne s'agit pas ici de désir individuel, mais qu'en fait, il y a une espèce de production collective du désir, entre hétéro et homo, de désir féminin ou de désir masculin, et qui, de fait, ne sont pas liés à des logiques uniquement psychologiques, etc., individuelles, mais à des logiques collectives. Et on peut se demander si ce type de dispositifs marchands ne sont pas simplement des dispositifs de capture en fait des désirs, mais indépendamment de l'hypothèse de l'influence du porno, c'est pas la question. La question, c'est qu'en fait, dans les logiques économiques reproduisent en fait un ensemble de présupposés ou d'a priori, par exemple sur les questions de sexualité féminine ou masculine, alors que de fait on sait, tout laisse à penser que les femmes ont aussi des fantasmes, mais par contre il y a qu'une très faible partie de la pornographie qui leur est dédiée.
En fait, je souris parce que je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à ta propre question. En fait. J'ai bien compris.
Bon. Enfin, bon, on l'a évoqué, vous l'avez repris, là. C'est le...
Oui. Ah oui, non, bien sûr.
Il a repris le
mot. Mais bon, on a essayé de rester dans le thème de la session, c'est pour ça.
Oui, on citait tout à l'heure le livre d'Eva Illouz là, sur les 50 nuances degrés. Bon, sa thèse, c'est quand même que à travers ce bouquin, il y a eu une espèce d'explosion des pratiques. Alors, elle insiste sur les pratiques BDSM, mais une espèce de banalisation de pratiques qui étaient encore plutôt réservées à un univers masculin où les femmes rentreraient là-dedans. Quoi. Donc, alors, on peut se demander, qu'est-ce qui est l'œuf et qui est la poule ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la cause et qu'est-ce qui fait effet ? Est-ce que tout était déjà là ? Il a fallu qu'un réceptacle technologique soit là, en l'occurrence un imprimé. J'attends le prochain film, d'ailleurs. Peut-être qu'on aura les 50 nuances degrés en film. Hein. C'est très, très vraisemblable. C'est un tel succès, quoi. C'est mieux. C'est déjà en route. Bon, d'accord. Mais je crois que là, il y a une vraie question qui est, je ne sais pas s'il faut dire le fantôme ou le spectre ou ce qui rôde en dessous. Quoi. La vraie question, quel est le moteur de l'économie à travers ces extraordinaires développements comme ça, d'une technologie utilisant tous les moyens qu'on a de communication jusque vers de nouveaux paradis immersifs. Et j'incite exprès sur paradis parce que imaginez, là, je ne sais pas, il y a des gens qui ont lu de la fiction ici, quoi. Imaginez que les prix de l'immersif soient très 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 chers, que ce soit un petit peu comme les paradis pour ceux qui se font exploser, qui vont au ciel, où ils rencontrent 80 vierges et tout. Quoi. Là, ils ont droit au paradis immersif. Là, hein. Imaginez ce que ça pourrait constituer comme pousse à travailler, comme pousse à etc. etc. quoi. Là, on est en présence de phénomènes, je dirais, qu'on n'a pas encore, à peine, à mon avis, commencé à jauger. Quoi. Hein. Bon, c'est très difficile d'être prospectif. Hein.
Non, je veux pas. Si, c'est. Je voulais juste intervenir à propos d'Internet, concernant notamment, vous avez beaucoup fait allusion au webmaster, qui utilisait des techniques plutôt agressives. Ils ne sont pas l'unique maillon en termes d'économie de tout ce qui est contenu porno sur Internet. On a également les référenceurs qui travaillent énormément, vu aujourd'hui tout le contenu qui est disponible. Enfin, on est complètement noyé dans cette masse. Et il y a toute une réflexion sémantique à ce niveau-là et toute une recherche, puisqu'il y a au moins un site internet de contenu porno qui naît chaque jour. Et en fait, donc il n'y a pas que le webmaster qui crée du contenu, enfin, ou qui essaie d'accrocher agressivement. Il y a le référenceur aussi à côté.
Oui, non, okay. C'est juste. Après, le porno, si on parle de référencement sur Google, subit de plein fouet les envies de l'algorithme de Google, vu qu'en tout cas en France, Google concentre 95% des recherches. Le travail de référenceurs, de SEO, qui sont, enfin, normalement, qu'on retrouvait en tout cas les meilleurs là-dedans dans le porno, avec des techniques aussi qui sont très très agressives, voire illégales. Là, ils sont face à un géant qui décide de faire ce qu'il veut. Donc, j'ai beaucoup mentionné webmaster parce que c'est souvent des choses que les gens ne savent pas, enfin, le grand public ne sait pas. Et voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu insisté là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas parlé de gens qui faisaient du SEO, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, depuis 2-3 ans, c'est.
Peut-être expliquer le SEO aujourd'hui.
Le SEO, Search Engine Optimization, c'est le référencement, c'est l'optimisation du référencement en fait, d'un site sur un moteur de recherche. Sachant que 50% des clics se concentrent sur le premier lien, 30% sur le deuxième, et après ça descend très très vite, très 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 vite. Et donc c'est l'intérêt pour un site porno, c'est d'être quand quelqu'un va taper soit un tag, soit juste en tapant porno dans Google, hein, parce que les gens tapent porno partout, hein, dans Facebook et tout ça, ouais. Même s'ils trouvent pas grand chose sur Facebook, mais d'être en premier, parce qu'en premier c'est là où il y a le trafic, et si on est 15e page, on n'existe pas, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils font face à Google qui a des petits problèmes en tout cas avec le porno, comme tous les grands géants du net. ils ont un problème avec la sexualité, ils ont un problème avec le sexe, en fait. Donc tout ça est un peu compliqué. Et voilà, depuis 2 ans, en tout cas, c'est aléatoire et plus personne n'arrive à comprendre quoi que ce soit. Et on est limite dans l'alchimie. Là.
On a le droit encore d'acheter des mots-clés
Non, plus sur le porno depuis juillet.
Donc voilà. Ça règle un problème.
Et ça va plus loin que ça, c'est la rencontre
c'est
un peu plus sexy.
Naturel, donc faut aller
que du référencement naturel.
Voilà. Ces liens partout.
Et le référencement naturel est quand même lié à un algorithme que personne n'a, qui est détenu par Google, et c'est très compliqué. Quoi. Puis en plus de ça, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est l'historique. Vu que la plupart des gens ont un compte Google via Gmail ou YouTube, ou peu importe, mais ça concerne énormément de gens quand même. Je ne sais plus combien il y a de comptes Gmail en France, mais c'est occasion, je veux dire, au moins 50% des gens. Le problème, c'est que les réponses sont liées à l'historique, sont personnalisées et le sont tout le temps, en fait, et le seront de plus en plus. Donc, il n'y a plus un référencement, il faut penser en déréférencement.
C'est un grand débat sur l'Internet et la bulle qu'on va personnaliser autour de nous-mêmes et qu'il n'y aura plus d'Internet pour tout le monde. Mais c'est vraiment un autre débat. Donc, je vous propose peut-être de nous arrêter là. Merci à tout le monde.
Et merci à tous les trois.
Très bonne soirée.
Merci Marie, merci Claude, merci Stéphane. Et donc on vous donne rendez-vous, on vous souhaite une bonne soirée, on vous donne un rendez-vous demain à 11h15, c'est-à-dire peu après, quelques minutes après l'ouverture du centre qui a lieu à 11h. Il faudra rentrer par l'entrée générale et s'il y a une file d'attente au centre, on viendra vous voir avec une petite pancarte et on fera une petite entrée spécifique pour les participants du colloque. Voilà, bonne soirée à tous et à demain. Merci.